travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Comme l'a dit Éric, ces élections donnent aux travailleurs l'occasion de se faire entendre. Mais pour faire entendre leurs intérêts, les travailleurs ne doivent pas se laisser entraîner dans les faux débats qui agitent cette campagne, que ce soit sur les frontières de l'Europe, sur le protectionnisme ou sur l'euro. Les principaux politiciens opposent l'euro au franc pour ne pas avoir à se positionner sur le niveau des salaires. Ils opposent la France à l'Europe pour masquer la responsabilité patronale. Et ils opposent le protectionnisme à la mondialisation pour ne pas parler du capitalisme. Du front de gauche jusqu'au front national, en passant par le Parti socialiste et la droite, tous jouent à ce jeu-là. C'est une diversion. En plus de détourner les travailleurs des combats qu'ils ont à mener, ces idées distillent le poison de la division, du nationalisme, quand ce n'est pas celui de la xénophobie. Alors les travailleurs doivent rejeter ces idées néfastes et réaffirmer l'internationalisme porté depuis toujours par le mouvement ouvrier en proclamant « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Beaucoup, au premier rang desquels le Front National, nous disent que tout est de la faute de Bruxelles et qu'il faut considérer les travailleurs des autres pays d'Europe ou du monde comme des concurrents, des adversaires, des ennemis. Des adversaires, ceux qui aux quatre coins d'Europe subissent les mêmes licenciements, les mêmes blocages de salaires, la même démolition des services publics. Des ennemis, les mineurs de Turquie qui sont morts dans l'explosion de la mine de Goma. Des concurrents, ceux qui viennent travailler sur les chantiers de construction en France, non, des travailleurs, comme nous tous ici, des exploités, bien forcés d'aller où ils peuvent pour gagner leur croûte. La classe ouvrière est internationale par nature. Elle existe dans tous les pays, parce que partout où le capitalisme s'est imposé, il a généralisé la condition d'exploité à l'immense majorité de la population. International aussi, parce que les travailleurs de tous les pays sont mélangés, depuis toujours. Marx disait « les travailleurs n'ont pas de patrie ». Et ce n'était pas qu'une façon de prendre le contre-pied du nationalisme de la bourgeoisie. C'était un constat. Le constat que dans cette société capitaliste, les travailleurs sont forcés de se déplacer, forcés d'aller vivre où ils trouvent du travail. Il est aujourd'hui beaucoup question des travailleurs détachés, roumains, bulgares ou polonais. Mais combien de paysans italiens, algériens, marocains ont été détachés de leurs champs tout au long du XXe siècle ? Détachés de leurs champs pour venir vivre et pour venir travailler dans les mines, sur les ports, dans les usines de montage. Au XIXe siècle déjà, Londres, Paris, les grands chantiers de construction de chemins de fer ou les régions minières étaient des points de rassemblement de travailleurs français, allemands, anglais, irlandais, belges, polonais. Comme aujourd'hui, la bourgeoisie a toujours cherché à profiter de la misère ouvrière pour mettre en concurrence les travailleurs, casser les salaires et aggraver l'exploitation. Mais les travailleurs n'en sont pas restés à se regarder en chien de faïence. Ils y ont répondu de la seule manière possible, c'est-à-dire en s'organisant et en combattant ensemble. Et le mouvement ouvrier, eh bien, il est à l'image de la classe ouvrière. Il est international aussi, depuis toujours. Sur les barricades de 1848, les Gavroche ont côtoyé les ouvriers italiens, allemands, suisses, belges. Le premier gouvernement ouvrier, la Commune de Paris de 1871, avait nommé à sa direction un Hongrois, Léo Frankel, et un Polonais, Dombrowski, à son commandement général. Et la première grande organisation ouvrière fut l'Association internationale des travailleurs, créée à Londres en 1864 à partir de liens existants entre les ouvriers de toute l'Europe. Karl Marx résuma son but en deux phrases. L'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et c'est sur cette base que se développèrent les années suivantes, les premiers partis ouvriers nationaux. Et pour les dirigeants qui étaient Marx, Engels, Lénine, Trotsky ou Rosa Luxembourg, et qui avaient l'internationalisme chevillé au corps, il était évident que le combat des travailleurs était un combat international. Mais ça l'était aussi pour un grand nombre de militants. Leur internationalisme allait de pair avec la lutte de classe. Et il en va de même aujourd'hui. La conscience internationaliste est indissociable du combat des travailleurs. C'est la conscience qu'au-delà de leurs différences, au-delà des nationalités et des frontières, les travailleurs ont les mêmes intérêts et forment une seule et même classe sociale. C'est la conscience que ce qui sépare les hommes, ce ne sont pas les frontières géographiques, mais les frontières sociales. Les frontières de classe qui divisent la société en exploiteurs d'un côté et en exploités de l'autre. C'est le rejet du nationalisme et du chauvinisme. C'est la conviction que les luttes des travailleurs, dans quelque pays que ce soit, font avancer le sort de tous. C'est la conviction que le combat des uns est le combat de tous. Cette conscience, elle n'a jamais été innée. Elle s'est construite et elle a été transmise au travers des organisations ouvrières, au travers de journées de lutte internationale comme le 1er mai par exemple, au travers aussi du rejet des hymnes et des drapeaux nationaux qui ont été remplacés par le drapeau rouge et par le chant de l'international. C'est peu dire que les partis de gauche n'ont plus cette politique aujourd'hui. Le Parti communiste, comme le Parti de gauche, se place comme les politiciens bourgeois sur le terrain du nationalisme. Qu'est-ce qui sera bon pour la France? Qu'est-ce qui sera bon pour l'économie du pays? Se demande-t-il. Mais autant se demander ce qui sera bon pour Bouygues, pour Peugeot, pour Bettencourt, car les intérêts de la France, ce sont toujours les intérêts de la bourgeoisie française, jamais ceux des travailleurs et des pauvres. Eh bien, les travailleurs conscients doivent opposer à tout ce monde-là leur point de vue de classe et leur internationalisme. Et se demander non pas ce qui sera bon pour la France, mais qu'est-ce qui sera bon pour les travailleurs et qu'est-ce qui sera bon pour tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, leur origine, qu'ils aient ou pas des papiers. L'internationalisme n'est pas qu'une question de solidarité entre exploités. Ce n'est pas seulement qu'une question d'efficacité dans le combat, c'est la seule issue pour l'humanité. C'est la conviction que les travailleurs ne pourront pas s'émanciper dans un seul pays. Il n'y a pas de société plus folle que cette société capitaliste. Le chômage, il y a un chômage de masse, alors que des millions de travailleurs s'échinent au travail. C'est une aberration. Le fait que les travailleurs sont condamnés à des salaires et des pensions de misère alors que des centaines de milliards sont dilapidés dans le luxe et dans la spéculation montre que ce système marche sur la tête. 1 milliard de personnes sont condamnées à la sous-alimentation alors que nous produisons de quoi nourrir deux fois la population de la planète. Des centaines de millions d'êtres humains sont privés de l'accès à un logement digne de ce nom, à des soins convenables, à la culture, voire simplement à l'eau courante. Tout cela pourquoi? À cause des lois du capitalisme. Parce que les capitalistes ne produisent que pour ceux qui sont solvables. Parce qu'au lieu d'organiser rationnellement la production et de produire pour les besoins de tous, les capitalistes sont lancés dans une concurrence, dans une accumulation individuelle qui est délirante et dans une concurrence à mort. La seule issue pour l'humanité, c'est donc de renverser le système capitaliste et de fonder l'économie sur des bases collectives. Mais cette économie ne peut pas fonctionner autrement que sur une base mondiale. Le capitalisme est mondialisé depuis toujours. Il s'est d'ailleurs développé à partir du commerce international. Le commerce avec l'Afrique, avec l'Asie et le Moyen-Orient, le commerce triangulaire et la traite esclavagiste au XVIIe et XVIIIe siècle ont été à la base de la révolution industrielle. C'est la bourgeoisie montante qui a réalisé la première mondialisation. Et elle a ainsi étendu ses méfaits, l'exploitation, les rapines, le pillage et les massacres à la planète entière. Depuis lors, les échanges internationaux n'ont fait que s'intensifier. Les capitaux se sont mêlés, les travailleurs aussi. Le marché est devenu mondial. Les agriculteurs se fournissent et vendent sur le marché mondial. La moindre usine travaille pour ou avec des entreprises étrangères. Et pour être fabriqué, le moindre produit nécessite une chaîne d'échanges internationaux. Et bien malin, celui qui voudrait consommer 100% français. Un journaliste s'y est frotté en essayant de vivre pendant un an « Made in France ». Il s'est débarrassé de 95% de son mobilier et de ses appareils électriques. Il a remplacé le café et le thé par la chicorée et le jus de pomme. Et grand déchirement, paraît-il, il a dû se passer de ses jeans, de son réfrigérateur et de son coupe-ongle. Et s'il avait cherché de quel acier était fait son opinel, il aurait dû aussi s'en séparer, parce que son acier inoxydable est suédois. Quant à sa mobilette, elle ne roulait sûrement pas au vin rouge. Elle n'a pas non plus poussé son expérimentation jusqu'à rechercher une énergie 100% française, ce qui l'aurait forcé de s'éclairer à la bougie, à supposer même qu'il y ait des bougies et des allumettes 100% françaises. Comme quoi, tous ces gens-là sont peut-être naïfs, mais ils ne sont pas fous. Et disons à la décharge de ce journaliste qu'il a au moins payé un peu de sa personne. Quand un Montebourg chante pourtant du « Made in France », et bien placé pour savoir que ses discours ne valent absolument rien, s'est contenté, lui, de porter une marinière pendant 3 minutes, le temps de la photo. Montebourg ressemble à ces bonimenteurs de foire. Vous savez, ceux qui sont payés pour raconter et pour vendre n'importe quoi à des gogos. Parce que son histoire de patriotisme économique, c'est vraiment ça. Regardez son cinéma autour d'Alstom. Il s'excite et il fait mine d'œuvrer pour l'intérêt supérieur en poussant l'offre de Siemens. Mais il sait que la décision ne lui appartient pas. Et il sait que dans cette société, le pouvoir est dans les mains de ceux qui détiennent les capitaux. Et ce n'est pas le décret qu'il vient de prendre qui changera cela. Qu'en fera-t-il d'ailleurs? Que le gouvernement n'imagine pas une seconde nationaliser Alstom montre qu'il ne veut rien imposer aux grands actionnaires. Alors tout cela, ce n'est que gesticulation. Et si les grands actionnaires d'Alstom, à commencer par Bouygues, qui est actionnaire pour 29% d'Alstom, trouvent plus d'intérêt à vendre à General Electric qu'à Siemens, eh bien ils vendront à General Electric, n'en déplaise au gouvernement, à Montebourg et à toutes ces sornettes patriotiques. L'idée de produire et de consommer 100% français est une idée réactionnaire et stupide. On ne va pas installer des usines d'assemblage d'avions de partout dans le pays. On ne va pas cultiver des oranges, des bananes ou des cacaoyers en Bretagne. Et les groupes pétroliers parviendront peut-être à leur fin en exploitant le gaz de schiste qu'ils ont trouvé dans le sous-sol français, mais ils n'y trouveront pas de pétrole. Ce sont bien les échanges de matières premières, de technologies, de produits, de capitaux, d'idées et d'hommes qui irriguent l'économie et qui lui permettent d'avancer. Bien sûr, cette économie avance surtout au profit d'une minorité et s'il y a quelque chose à changer, c'est cela. Mais la mondialisation, c'est un fait. Il n'y a pas plus de produits français que de produits allemands ou de produits chinois. Le moindre produit nécessite l'intervention d'une myriade de métiers, de services, de pays, de travailleurs. L'imbrication de l'économie à l'échelle de la planète est telle qu'il est impossible de revenir en arrière sans imposer des privations sans fin et une régression effroyable. Ce que les travailleurs ont à combattre dans la mondialisation capitaliste, ce sont les rapports de domination, le pillage, le sous-développement et les répercussions néfastes qui en découlent sur l'environnement et sur la planète. Ce que les travailleurs ont à combattre dans la mondialisation capitaliste, ce ne sont pas les échanges, ce n'est pas la mondialisation, c'est le capitalisme. L'accord de libre-échange transatlantique que l'Europe est en train de négocier avec les Américains est maintenant le symbole de la mondialisation qu'il faudrait combattre. Bien sûr, il faut dénoncer ce que les multinationales manigancent derrière notre dos, mais comme si c'était quelque chose de nouveau. Et surtout, gardons-nous de faire croire que les multinationales européennes ou françaises sont meilleures que les américaines. Le poulet au chlore, que les adversaires de ce traité présentent comme une spécialité américaine, n'est certes pas très appétissant. Mais souvenons-nous que manger européen ne nous a pas protégés ni de la vache folle, ni des lasagnes à la viande de cheval. Et souvenons-nous aussi du scandale du Mediator, vendu à des millions de patients de par le monde comme un coupe-faim par Servier. Servier, grand patron français s'il en était, décoré de la Légion d'honneur par Sarkozy. Et c'est sans oublier le scandale de l'amiante, dont la nocivité fut établie il y a un siècle et qui ne fut interdite qu'en 1997 en France et qui tue encore aujourd'hui. Alors, n'agitons pas des chiffons rouges et gardons-nous de faire croire que le problème est le libre-échange et la circulation des marchandises. Les liens économiques, sociaux et humains qui ont été tissés au travers de cette mondialisation sont des liens précieux. C'est la base sur laquelle un système plus productif que jamais s'est développé. Et cela, il ne faut pas le détruire, mais il faut le maîtriser. Il faut que les travailleurs le reprennent à leur compte, de sorte qu'ils servent à l'humanité tout entière. Oui, les multinationales sous le contrôle des capitalistes ont un grand pouvoir de nuisance. Mais ces mêmes multinationales, mises au service de la population, pourraient être demain des outils fantastiques pour maîtriser notre vie économique, pour l'organiser consciemment, rationnellement, de façon à économiser les ressources et de façon aussi à combattre la pollution. Aucun des grands problèmes qui se posent à l'humanité, qu'il s'agisse de nourrir toute la planète, de guérir de maladies meurtrières, de pourvoir le monde entier en énergie, en transport, en logement, ne peut être résolu avec le repli national. Toutes ces questions se posent désormais à l'échelle de la planète. Et s'il revient aux travailleurs de prendre le pouvoir et d'organiser la production, ils devront le faire à l'échelle du monde. L'Union européenne n'a pas été l'œuvre d'idéalisme inspiré par le désir de mettre fin aux guerres et de fonder les relations inter-européennes sur l'amitié entre les peuples. Elle a été l'œuvre de banquiers, d'industriels, de marchands obsédés par la concurrence. Pour les bourgeois d'Europe, la construction de l'Union européenne a été tout à la fois une nécessité et une impossibilité. Une nécessité parce que l'industrie française ou allemande, en commençant par celle de l'acier et du charbon, ne pouvait pas se développer dans les frontières étroites des marchés nationaux. Parce qu'elle ne pouvait pas espérer jouer dans la cour des États-Unis ou du Japon sans faire un grand marché européen. Mais une impossibilité aussi, parce que chaque bourgeoisie voulait bien accéder au marché du voisin tout en continuant à protéger son propre marché. Parce que chaque gouvernement voulait bien des institutions européennes tout en gardant leurs propres prérogatives. Cette contradiction, elle ne fait que s'exacerber aujourd'hui, avec des groupes capitalistes toujours plus internationalisés, œuvrant à l'échelle de la planète entière, mais toujours plus demandeurs de la protection et des subventions de leur État national. Le résultat de ces contradictions et de tous ces compromis, c'est l'Union européenne que l'on connaît, une espèce de mariage de raison où chacun fait chambre à part, défend son pré carré, et où, surtout, on ne met pas son compte bancaire en commun. C'est une Europe rabougrie qui, au bout de 60 ans, ne compte que 28 pays sur les 45 qui composent l'Europe. C'est une Union européenne qui n'englobe toujours pas toute la moitié orientale de l'Europe, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, sans parler de la Turquie. Et si des voix s'élèvent aujourd'hui, ce n'est pas pour élargir l'Europe, mais pour la rétrécir en officialisant une Europe à deux vitesses. Que les défenseurs de l'Europe en soient aujourd'hui à vanter le programme Erasmus et l'obligation de la ceinture de sécurité à l'arrière comme les grands acquis de l'Union européenne montrent qu'ils n'ont vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent pour nous faire aimer cette Union européenne. Leur ultime argument, et le seul un peu conséquent, c'est que l'Union européenne a garanti la paix. Mais ces 20 dernières années, du Rwanda à la Yougoslavie, en passant par l'Irak, des millions de femmes et d'hommes ont péri sous les bombes ou sous les coups de machette. Des pays entiers ont été ravagés. L'enfer de la guerre est aujourd'hui le quotidien en Syrie, en Centrafrique. Mais du moment que ces messieurs dorment sur leurs deux oreilles, ils appellent cela la paix. Les dirigeants français, allemands et britanniques se vantent d'être des forces de paix parce qu'ils ne font pas s'entretuer leur propre peuple, comme ils l'ont fait pendant les deux premières guerres mondiales. Mais ils font s'entretuer aujourd'hui d'autres peuples dans le tiers-monde. Et ils envoient leurs avions de combat aux quatre coins du monde. Ils font sillonner les mers par leurs sous-marins nucléaires, les airs par leurs drones de combat. Et quand leurs intérêts sont en jeu, ils mettent des pays entiers à feu et à sang. Les grandes puissances européennes à la tête de l'Europe n'ont rien de vigie pacifique. Comme les États-Unis, ce sont des puissances impérialistes, prêtes à tout pour sauvegarder leur influence et leurs intérêts aux quatre coins du monde, y compris la guerre. Et se vanter d'avoir installé la paix en Europe, au moment où l'Ukraine s'enfonce dans la guerre civile, guerre dont l'Europe partage la responsabilité avec les États-Unis et la Russie, est proprement révoltant. Quant au fait qu'en 60 ans de construction, rien n'est avancé sur le terrain des droits démocratiques et sociaux, il ne faut pas en être surpris. L'Union européenne a été conçue et créée par et pour les intérêts des groupes capitalistes. Il n'a jamais été question de créer un espace où les salaires, les droits sociaux et même les droits des femmes soient alignés vers le haut. Que les salaires roumains ou bulgares soient 5 à 10 fois inférieurs aux salaires allemands ou français. Que Malte, Chypre, la Pologne ou l'Irlande continuent d'interdire l'avortement et que le gouvernement espagnol y songe sérieusement. Les dirigeants européens s'en moquent complètement. Parler d'Europe sociale, c'est bon pour les campagnes électorales, mais cela ne les engage à rien. Même un droit aussi élémentaire que la libre circulation des personnes n'est pas complète aujourd'hui. Par exemple, pour les Roumains, les Bulgares, pour les Croates. Et regardez comment les Roms sont traités. Pour les Roms, la construction de l'Europe aurait pu avoir une signification concrète. Et que fait l'Union européenne? Elle ne leur laisse que l'étroite possibilité d'errer et d'être chassés d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Ce que les dirigeants politiques ont appelé la construction européenne n'est qu'une histoire de marchandage sordide où les travailleurs et la vie des plus pauvres n'entraient pas en ligne de compte. C'est une machine de guerre commerciale, un instrument d'oppression de la bourgeoisie qui s'ajoute à l'instrument d'oppression que constituent les États nationaux. Car nous ne sommes pas de ceux qui rejetons l'Europe pour vanter le repli national. Combattre l'Europe pour s'en remettre aux institutions et à la souveraineté nationale n'est qu'une autre façon de servir la soupe à la bourgeoisie. Il est stupide d'opposer la souveraineté nationale à l'Europe quand la souveraineté est dans les mains des capitalistes et qu'elle s'impose à chacun des pays comme à l'échelle du monde. Et il est stupide d'opposer les responsables de Bruxelles ou d'Europe à ceux de la France. Ce sont les mêmes politiquement, voire ce sont les mêmes tout court. Bruxelles ne prend aucune décision importante qui ne soit voulue, ou du moins avalisée par les gouvernements nationaux, au premier rang desquels il y a le gouvernement français. Quant à celui-ci, il ne prend aucune décision économique de quelque importance que ce soit sans que celle-ci ne soit elle-même avalisée par le grand patronat. Non, Merkel ne mène pas Hollande par le bout du nez, et ce n'est pas l'égoïsme allemand qui en fait baver à toute l'Europe. Les dirigeants français et allemands sont d'accord pour faire ce que les financiers leur demandent. Ils ont été d'accord pour étrangler les travailleurs grecs ou espagnols. Ils ont été d'accord pour imposer à tous les États des politiques d'austérité. S'il faut faire porter la responsabilité des décisions prises par l'Europe, c'est sur le couple franco-allemand, les deux plus grandes puissances qui dominent la zone euro. Car c'est aussi une caractéristique de l'Europe que d'avoir maintenu les rapports de domination entre les pays les plus riches de l'Europe et ceux les plus pauvres, comme la Grèce. Quant à l'Europe de l'Est, encore beaucoup plus pauvre, elle n'a été que le champ clos des rivalités des multinationales françaises, allemandes et britanniques. Et c'est peu dire que les classes populaires de toute la partie orientale de l'Europe, de la Pologne à la Bulgarie, ont de quoi être déçus par cette construction européenne. De l'Europe, ils n'ont vu que les banques et les multinationales françaises ou allemandes se comporter en prédateurs. De l'Europe, ils n'ont vu que les huissiers. Ils n'ont vu que la crise, les condamnant au chômage. Et c'est en partie ce qui explique la virulence plus grande de l'extrême droite dans cette partie d'Europe. L'Union européenne est à l'image du capitalisme. Elle est inégalitaire, injuste, gangrénée par la spéculation et la crise. Mais encore une fois, ce n'est pas l'Europe qui est en cause, mais le capitalisme. Et tous les démagogues qui font croire l'inverse et brandissent le nationalisme emmènent les peuples dans une impasse mortelle. L'Europe, l'Allemagne, la France, la Grèce sont des paravents derrière lesquels se cache la domination des industriels et des financiers de toutes origines. Poser les problèmes en termes nationaux, c'est faire oublier qu'il y a dans tous les pays des exploités et des exploiteurs. Et n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, l'Allemagne n'est pas ce pays de nababs retraités qui vise sur le dos des travailleurs français jeunes et productifs, comme il le laisse entendre. L'Allemagne, c'est aussi ces millions de travailleurs allemands, turcs, qui vivotent avec 700, 800 euros par mois, tout en travaillant dur. Et regardez comment, après avoir accusé les Grecs, en pleine crise financière, d'avoir vécu au-dessus de leurs moyens, Valls ose dire cela de nous, aujourd'hui. Alors, être sensible à ce genre d'argument nationaliste, quand il s'agit des Grecs ou des Allemands, opposer les peuples les uns par rapport aux autres, ne pas voir les responsabilités de nos propres gouvernements, c'est se condamner à subir. Alors, quelle que soit sa forme, à bas le nationalisme. Faire croire que l'État-nation pourrait protéger les travailleurs est une escroquerie. Croire que le repli sur les frontières nationales et le protectionnisme pourraient être d'un quelconque secours pour les travailleurs est un leurre. Le protectionnisme prétendument solidaire, version Mélenchon, ou gouvernemental, version Montebourg, n'est pas meilleur que le protectionnisme xénophobe de Le Pen. Ils forment un seul et même piège. Le protectionnisme, c'est d'abord des taxes en plus pour les consommateurs. Tout le monde se plaint des taxes et des impôts. Mais le protectionnisme, c'est un impôt supplémentaire, un impôt sur tout ce qui est importé. Et les produits bon marché qui permettent justement aux plus pauvres de joindre les deux bouts seront enchéris. C'est sûr que cela ne posera pas de problème aux riches, mais aux familles populaires, cela en posera. La baisse de l'euro, voire la sortie de l'euro, aura les mêmes conséquences. Car baisser la valeur de l'euro, c'est aussi augmenter le prix de tout ce qui est importé, et en particulier celui du pétrole. Pour tous ceux qui hésitent aujourd'hui à faire le plein de carburant, ce sera plus difficile encore. L'objectif de toutes ces mesures protectionnistes est, nous dit-on, de remplacer les produits d'importation par des produits made in France, de façon à recréer des emplois. Mais à condition que ces messieurs les capitalistes veuillent bien investir et trouvent un quelconque avantage à produire en France. Prenez le secteur du bâtiment. Il manque 1 million de logements à des prix abordables pour un salaire de travailleur. C'est un secteur protégé de la concurrence internationale. C'est du tout cuit pour les Bouygues, pour les Vinci et pour les autres marchands de béton. Eh bien, ce n'est pas assez rentable à leur goût. Et ils préfèrent se lancer dans des partenariats publics-privés bien plus juteux, voire dans la construction de tours de 800 mètres de haut à Dubaï. Alors faire croire que le protectionnisme, via les taxes ou la baisse de la monnaie, relancera automatiquement la production, l'industrie, la croissance et les emplois, est une escroquerie. Croire d'ailleurs que l'on pourrait arrêter les importations, tout en continuant nous-mêmes de vendre nos propres produits à l'étranger, c'est vraiment se moquer du monde. Le protectionnisme, ce n'est pas la fin de la guerre commerciale, c'est son aggravation. C'est une déclaration de guerre dans la guerre. C'est plus de frontières séparant les peuples, plus d'insanité patriotique. Car le protectionnisme est l'expression économique du nationalisme. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et faut-il rappeler que le protectionnisme des années 1930 a débouché sur la Seconde Guerre mondiale? Non, le protectionnisme n'est pas la recette miracle pour que ce système tourne rond pour les exploités. Il ne le peut pas. Alors les travailleurs n'ont pas à choisir entre être exploités à la sauce libre-échange ou protectionniste, ils ont à se battre contre l'exploitation. Le Pen est sans doute celle qui crie le plus fort contre l'Europe. À l'entendre, tout est de la faute à l'Europe, de la Commission européenne, de Bruxelles. Rien du patronat. Rien de la rapacité patronale. Le grand patronat, ses bénéfices, ses dividendes, l'exploitation et les bas salaires qu'il impose, cela n'existe pas pour elle, parce qu'elle est de leur monde. Pour Le Pen, comme pour les autres, l'exploitation est dans l'ordre des choses, elle est normale. Le Pen fait de la démagogie, elle plaint les travailleurs, elle verse une larme de crocodile sur les retraités modestes et sur les chômeurs. Mais elle se prépare à servir le système qui les écrase, comme Sarkozy et comme Hollande, avec des conséquences pires encore pour les travailleurs. Toute la politique du patronat consiste à diviser les travailleurs, à les monter les uns contre les autres. Eh bien, Le Pen fait exactement la même chose. En opposant les travailleurs qui ont la carte d'identité française à ceux qui ne l'ont pas, en opposant les travailleurs musulmans aux autres quand ce n'est pas les chômeurs à ceux qui ont du travail, Le Pen sème le poison de la division parmi les travailleurs. Elle accuse les travailleurs détachés des pays de l'Est de faire une concurrence déloyale aux Français. Mais en France, le plus grand contingent de travailleurs détachés, ce sont les Français salariés au Luxembourg. C'est le propre du capitalisme que de mettre en concurrence les travailleurs les uns avec les autres. De nous mettre tous en concurrence, les jeunes et les anciens, les diplômés, les non-diplômés, ceux qui ont le permis et la voiture, et ceux qui ne l'ont pas. Le piège mortel, ce serait de nous combattre. Alors oui, Le Pen est l'ennemi mortel des travailleurs. C'est une démagogue qui s'appuie sur la démoralisation et la résignation pour distiller son poison. Et la seule force qui la fera reculer, c'est celle des travailleurs en lutte. Beaucoup déplorent que face au Front National, il n'y ait pas d'unité à l'extrême gauche. Mais la force de l'extrême droite réside dans l'absence de perspective à l'opposé. C'est-à-dire dans l'absence d'un courant politique qui milite sur le terrain de la lutte de classe. Elle repose dans l'absence d'un parti révolutionnaire qui rejette non seulement les politiciens qui se succèdent, mais l'ordre capitaliste lui-même. La seule façon d'enrayer l'influence du Front National dans la classe ouvrière, c'est que les travailleurs reprennent confiance dans leur force, dans leur capacité de peser, qu'ils retrouvent leur combativité. Il ne faut pas chercher une énième combinaison électorale. Il faut lever le drapeau des luttes. Et c'est une évidence que ce n'est pas la politique de Mélenchon. Toute la politique de Mélenchon consiste à ressusciter la gauche. Et avec qui? Avec les 41 députés qui se sont abstenus lors du vote de confiance pour s'écraser ensuite, lamentablement, avec les écologistes, qui certes ont quitté le gouvernement, mais qui ne sont pas dans l'opposition. Voilà le nouveau parti de gauche auquel rêve Mélenchon. Une énième combinaison gouvernementale qui pourrait le hisser au pouvoir en faisant croire que cette fois, il ferait vraiment une politique de gauche. Mais cela fait des décennies que les travailleurs sont baladés par ces faux espoirs et par ces illusions électoralistes. Le NPA dit avoir proposé une alliance électorale tant à lutte ouvrière qu'au front de gauche et il regrette avoir obtenu une fin de non-recevoir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais le simple fait d'être prêt à s'unir aussi bien avec Mélenchon et avec nous montre que nous ne partageons pas la même démarche. Encore une fois, ce n'est pas d'un parti de gauche supplémentaire dont les travailleurs ont besoin, mais d'un parti ouvrier qui parte du point de vue et des intérêts des travailleurs. Un parti qui ne dise pas aux travailleurs « Votez pour nous et nous ferons le reste ». Un parti qui milite pour redonner confiance aux travailleurs, qui affirme que les travailleurs ont une force considérable car ils font marcher toute l'économie. Un parti ouvrier qui met en avant les seuls moyens que la classe ouvrière a de peser, c'est-à-dire les luttes et le rapport de force. Et un parti qui affirme, dans les circonstances actuelles, que tant qu'on n'a pas la force de renverser ce qui nous opprime, on est bien obligé de subir, mais les travailleurs doivent faire entendre leur camp. Alors, dans les quelques jours qui nous restent pour cette campagne, faisons maximum pour convaincre le plus possible d'électeurs de faire entendre le camp des travailleurs. Le programme de lutte des travailleurs et ses perspectives d'émancipation vont de pair avec l'internationalisme. Tout se tient, c'est le même programme, c'est la même vision communiste. Dans le combat contre la bourgeoisie, toute l'histoire du mouvement ouvrier montre que les travailleurs seront opposés, non pas à une bourgeoisie nationale, mais à la bourgeoisie mondialisée depuis longtemps. Parce que la bourgeoisie elle-même a été forcée par la logique propre de son système à dépasser les frontières. Elle a étendu son système sur toute la planète. Et elle a, de fait, rapproché les peuples et uni les exploités dans un sort commun. Eh bien, il faut en faire une force. L'ouvrier français, roumain ou allemand vit la même exploitation, le même diktat patronal, la même galère de logement, la même tutelle du banquier et peuvent même avoir le même patron. Alors, moins il y a de frontières, plus les occasions de tisser des liens sont nombreuses, mieux c'est pour le prolétariat. La bourgeoisie mise sur la résignation, sur les préjugés nationalistes. Elle mise sur le fait que les travailleurs ne sauront pas réagir s'ils sont mis en concurrence les uns avec les autres. Ne tombons pas dans le piège. Ayons une politique vis-à-vis des travailleurs nouveaux venus, regroupons-nous. Il ne suffit pas de dénoncer les insanités anti-immigrées du Front National. Il faut en prendre le contre-pied, non pas au nom de repliements identitaires aussi réactionnaires, mais au nom des idées, des valeurs du mouvement ouvrier. Dans un passé, il est vrai, bien lointain, l'honneur du mouvement ouvrier dans les pays développés, là où il était le plus puissant, n'était pas seulement de prendre la défense des travailleurs immigrés et d'en être solidaire, c'était de les intégrer dans le mouvement ouvrier, de leur transmettre les idées révolutionnaires et d'en faire des compagnons de combat. Et beaucoup de travailleurs des pays de l'Est européen, d'Inde, de Chine, d'Indochine ou du Maghreb, transformés humainement et politiquement par le mouvement ouvrier de France ou d'Allemagne, ont contribué à répandre ces idées dans leur pays d'origine. Et c'est ainsi que les idées socialistes puis communistes se sont développées dans les pays de la partie pauvre de l'Europe, qu'elles ont traversé l'Atlantique et atteint l'Amérique, qu'elles sont allées jusqu'en Asie. Mais cela s'est fait parce qu'il y avait des organisations, des syndicats, qui transmettaient les idées de lutte de classe, la dignité d'appartenir à une classe sociale qui non seulement produisait tout dans cette société, mais qui était porteuse de la transformation sociale. Alors aujourd'hui encore, les exploités peuvent tirer profit des migrations et du mélange des travailleurs. Ils peuvent retourner la situation à leur avantage, à condition d'avoir la volonté de s'unir autour d'une politique qui représente leurs intérêts de classe. Le vote lutte ouvrière permettra aux travailleurs de rejeter non seulement tous les politiciens au service de la bourgeoisie, à commencer par le gouvernement Valls-Hollande, mais de rejeter aussi l'ordre capitaliste lui-même. Il représentera sans ambiguïté les intérêts de classe des travailleurs en affirmant que ce n'est ni l'unification européenne ni l'euro que les travailleurs ont à combattre, mais la dictature des financiers. Il représentera le combat de tous les travailleurs contre toutes les oppressions, contre les restrictions à la liberté de circuler, contre la chasse aux immigrés, contre les expulsions des sans-papiers. Voter lutte ouvrière, qui se revendique du communisme, c'est prendre la position la plus radicale contre les organisations d'extrême droite qui constituent une menace pour la classe ouvrière. Et je veux m'adresser aux jeunes qui sont nés et qui ont grandi en communiquant et en échangeant avec les quatre coins du monde, à ces jeunes qui ne pourraient pas envisager leur vie sans la liberté de circuler à l'échelle de la planète. Et je veux leur dire, rejetez ces barbelés, rejetez ces frontières artificielles que l'extrême droite veut vous mettre dans la tête, rejetez les idées nationalistes, le racisme, la xénophobie, et partagez le combat pour l'émancipation des travailleurs. Oui, voter lutte ouvrière, c'est opposer l'internationalisme à toutes les formes de démagogie nationaliste. Voter lutte ouvrière, c'est affirmer que le carcan, ce n'est pas l'Europe, c'est la loi du profit. Le verrou qu'il faut faire sauter, c'est le pouvoir absolu de la bourgeoisie, des financiers. C'est cette dictature qui pèse sur les travailleurs, que ce soit à l'échelle nationale, européenne ou mondiale. Qui fera éclater ce carcan? Qui démarrera le combat? Les mineurs de Turquie, les ouvrières du Bangladesh, les ouvriers de Tunisie, d'Espagne, de Grèce, de France? L'avenir nous le dira. Mais pour affirmer que le prolétariat d'Europe, avec ses composantes originaires de tous les continents, constitue une seule et même classe sociale, et pour affirmer la nécessité d'une société débarrassée de l'exploitation, votez et faites voter lutte ouvrière.
C'est la lutte finale. Groupons-nous.